et mission prochain, mission possible. Alors justement, si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien posé les choses, vous avez quelque chose sur, j'allais dire sous vos fesses, juste à côté. Ça va servir. Voilà, c'est ça, oui c'est ça. Vous avez un côté vrai, un côté faux. Ouais, je vois qu'il y en a qui sont déjà bien souples du poignet. Hein. Hop, hop. Vous avez vu, c'est le bonheur, hein. Attention, pas trop vite. Hein. Bon, vous êtes prêts, là, ça fait travailler les poignets. Donc je vais vous faire travailler sur un petit quiz, histoire de vous faire participer un petit peu. Sur l'amour du prochain dans la Bible, 6 questions. Et donc si vous avez, genre, voire même en haut qu'ils ont récupéré, super. Sur Internet, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas, sur ceux qui sont en distanciel. Voilà, vous ferez comme vous pourrez. Préparez-vous un stylo avec un vrai faux et dites-le-vous à vous-même. Vous ne pourrez peut-être pas nous le montrer, mais voilà, vous êtes avec nous. Voilà, je vous passe 6 questions. C'est parti. Vous montrez vrai ou vous montrez faux quand je vous le dis. D'accord ? Attendez. Alors, dans la parabole, celui qui vient en aide à l'homme, qui se fait dépouiller par des brigands, est un lévite. Vrai ou faux ? Réfléchissez, montrez. Ah, il y en a qui montent faux à l'envers. Mettez en bas. C'est pas grave. Effectivement, la bonne réponse, effectivement, c'était faux. C'était un samaritain. Bien joué. Allez, question suivante. D'après Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vrai ou faux, montrez. Vrai. Tout le monde dit vrai. Apparemment, c'est vrai. On va voir. Effectivement, la référence, c'était subsidiaire. C'est dans Jean, chapitre 15. Là, celle-ci n'était pas trop difficile. Mais, quand même. Une troisième, peut-être un peu plus dure, je crois. Le deuxième commandement que Jésus donne est de s'aimer soi-même. Vrai ou faux? Montrez-moi ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est apparemment, il n'y a pas trop de doute dans l'Assemblée, ce serait plutôt faux. Effectivement, vous êtes trop fort. C'est faux. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, verset 39. Jusqu'à présent, ça va. Allez. Dans l'Ancien Testament, Dieu reproche à son peuple de n'avoir négligé le pauvre, la veuve et l'orphelin. Vrai ou faux, vous montrez ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux dans l'Ancien Testament? Ah, il y en a qui hésitent un peu, ils ne savent pas trop, hein. Est-ce que c'est l'Ancien, est-ce que c'est le Nouveau Testament, j'entends? Eh bien, il n'y avait pas de doute, c'était bien déjà dans l'Ancien. Vrai, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans le Nouveau non plus. Mais c'est dans l'Ancien, c'est vrai. On le retrouve à plusieurs reprises dans les paraboles des prophètes. Dans les paroles des prophètes. Je crois que c'est la dernière maintenant. Paul salue la générosité des Romains. Vrai ou faux? Ah, c'est dur ça. C'est la plus dure. Alors, vous, quand vous voulez, vous montrez. Alors là, l'Assemblée est partagée. Je vois des vrais, je vois des faux. Une majorité de vrais, quelques faux. Et bien là, c'est les faux qui ont gagné. Il salue la générosité des Philippiens. Chapitre 4. Alors là, c'était dur celle-ci. Il y avait un piège. J'ai pas voulu accentuer en disant des Romains, parce que ça devrait trop aider. Ah voilà, c'était... Bon, vous avez au moins 5 sur 6, la plupart d'entre vous. Hein. Certains ont 6 sur 6. Allez, 5 et demi. Voilà, c'était pour introduire la prédication sur l'amour du prochain. Par un petit quiz, vrai ou faux. Alors, en ligne, je sais pas s'ils ont joué avec nous. Ceux qui étaient sur Zoom, ils ont pas joué. C'était difficile en ligne. Voilà, donc aimer le prochain, quel qu'il soit, vraiment. Et là, c'est bien la parabole du bon samaritain qui va nous être lue dans la version dite parole de vie. C'est pas vous. Ah, on fait signe que c'est pas eux, c'est moi. Alors c'est moi. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Alors, ça se passe en fin de journée, il y a une douzaine d'années, on est sur un parking d'un supermarché, Catherine, Raphaël et moi. Alors, c'est pas Raphaël sur la photo, mais il avait à peu près cet âge-là. La voiture ne veut plus démarrer à la pompe à essence. Bébé a faim. Une dame à la pompe voisine, vers qui Catherine se tourne, répond « Je n'ai pas le temps, je suis pressée. » Et nous sommes dépannés par une personne qui pousse, le vigile du supermarché. Le vigile, un boulot souvent mal payé, rarement choisi, il pousse, démarrant en panne. La voiture repart, bébé pourra être nourri à temps. Moment soulageant. Alors je n'oublierai pas ce vigile, un peu pour nous une figure du bon samaritain. Dans la parabole qu'on a lue tout à l'heure, le prêtre et le lévite représentent ceux qui mettent une limite. Une limite par rapport à l'identité du prochain à aimer. Ben, ils ont des bonnes raisons. D'abord, s'il touche un homme mort, parce que peut-être on ne sait pas s'il est mort, ce gars sur la route, hein, ils sont impurs. C'est ce que dit la loi. Ils doivent se purifier pendant 1 semaine, ne pas manger les produits de la dîme, et avec les mêmes implications pour leur famille pendant la même durée. Donc c'est compliqué. Si l'homme à demi-mort est un païen, le prêtre et le lévite ne sont pas tenus de l'aider selon la compréhension qui fait du prochain un compatriote juif. S'il est païen, ils sont quittes. Et le lévite, c'est un assistant des prêtres. Donc le lévite qui voyage donc probablement à la suite du prêtre qui marche devant lui, il peut savoir que ce dernier ne s'est pas arrêté peut-être. Et lui, devrait-il, lui, le faire ? Enfin bon, peut-être ont-ils peur tous les deux de se faire à leur tour détrousser s'ils s'arrêtent dans ce lieu risqué, parce qu'on sait qu'à l'époque, la route de Jérusalem à Jéricho, c'était la route de Jéricho, je veux dire, c'était un peu un coupe-gorge, hein, excusez-moi l'expression, mais il fallait se méfier. Donc, mieux vaut s'en aller. Tous deux ont vu, mais sont passés à distance du blessé à demi-mort. Je peux les comprendre, je peux me reconnaître. Il m'arrive de ne pas avoir de temps pour venir en aide. Tel rendez-vous, tel travail est terminé, et je n'arrête pas ma voiture. Alors l'autre jour, cette semaine, en préparant cette prédication, j'ai un exemple qui m'est arrivé que je n'ai pas eu le temps de noter là. Je suis à la caisse d'un supermarché, tiens. Bon, mais j'étais à pied. Hein. J'étais dans le supermarché, j'avais 2 queues, la queue de droite où j'étais et la queue de gauche. Dans la queue devant moi, une dame, sans doute musulmane, en partie voilée, simplement. À ma gauche, une personne très âgée. Et la queue était plus loin à gauche. Donc je m'étais mis à droite. La dame le voit, cette personne très âgée qui avait du mal à tenir debout. Elle est un peu flageolante, quoi. Et elle lui propose de passer devant. Derrière moi, il n'y avait personne. Elle me se tourne vers moi, elle me dit, est-ce que ça vous dérange pas? Je lui dis, non, passez. Et juste un instant d'avant, je m'étais dit, j'ai bien fait de mettre cette caisse-là, parce que, avec une personne âgée à côté, on a pour deux plombes. Et le Seigneur m'a repris. Et je me suis senti repris, misérable. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis après, on peut se dire, revenons à notre sujet, on pourrait se dire, pourquoi moi je devrais aider, quoi? Et cette dame que j'aurais peut-être même pas vue, mais qui elle a vue. Alors, pourquoi aider? Pourquoi moi? Pourquoi je devrais aider? Pourquoi je devrais laisser passer à la caisse une personne comme ça? De manière plus générale, les autres pourraient aussi intervenir. Et ils sont plus compétents. Ils savent, dans un cas d'urgence, de détresse, ils savent les gestes d'urgence. Il faut des spécialistes. Si on revient à notre exemple du bon samaritain, enfin, de la parabole qu'on a racontée, on a lu. Il faut des spécialistes. On a vu aussi des exemples de développement durable ce matin, de développement économique et social. Il faut des spécialistes, ce sont faits des humanitaires, pour ce qui concerne le développement durable ou intégral. Voilà, c'est une voix qu'on entend beaucoup, ce genre de voix. Et puis enfin, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je me mêle de telle situation, dans tel quartier, alors que quelqu'un a un problème. Quand avez-vous été au bord du chemin? Et quand quelqu'un vous a-t-il aidé à vous remettre en marche? Comme là, par exemple. Parce que là, c'est la voiture. Quand avez-vous subi une injustice? Et quand quelqu'un a-t-il pris soin de vous? Quand avez-vous perdu vos moyens financiers ou autres? Et quand quelqu'un vous les a-t-il redonnés? Et puis, est-ce que je dois aider quelqu'un qui est étranger? Il a son réseau de relations. Et si c'est une personne pauvre à l'autre bout du monde, on l'a vu encore ce matin dans les projets de développement, en quoi suis-je concerné? En quoi est-il mon prochain si je ne le connais pas, si je ne le vois pas? Comme un peu moi, j'ai pas vu la dame, le monsieur à côté de moi au supermarché, finalement. C'est un peu la même logique. Je rends grâce, en tout cas, pour tous les professionnels de l'urgence, du travail social, du développement, etc., qui interviennent dans le cadre de leur emploi. Ils font ce que je ne peux pas faire, ce que je ne veux pas faire. Mais est-ce que je suis quitte pour autant? Parce que ce qui est frappant dans la parabole, c'est que ceux qui mettent des limites à l'amour du prochain sont des religieux. Chrétiens et chrétiens engagés, les responsables d'église, etc., on est peut-être les premiers visés. Aux prêtres et aux lévites qui voient le blessé mais qui continuent leur route, aux blessés abandonnés à demi-mort, aux bandits, aux bons samaritains, à qui est-ce qu'on aime s'identifier? En général, on aime s'identifier, ben oui, j'entends au bon samaritain, le plus souvent instinctivement, celui qui a compassion, celui qui agit bien. C'est ça la question. Le spécialiste de la loi, lui, il a dû s'identifier à l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe dans un guet-apens. Il a dû s'identifier aux blessés. L'histoire est racontée avec cette visée, que l'homme s'identifie à celui qui est blessé. Et le spécialiste de la loi, lui, il ne peut pas s'identifier avec le samaritain, c'est pas possible, on y reviendra. Il nous faut donc, nous aussi, nous identifier aux blessés. Je donne un exemple. Il y a 4 à 5 ans, j'ai traversé une dure période sur le plan professionnel. J'ai dû faire une reconversion. On ne roulait pas sur l'or. Je ne faisais pas le malin. Et des amis m'ont soutenu. L'église m'a soutenu, mais des amis m'ont soutenu aussi en nous prêtant de l'argent. Alors, souvenons-nous, je m'en souviens encore, je suis vraiment reconnaissant, souvenons-nous toujours des moments où quelqu'un nous est venu en aide. Que ce soit une aide massive, significative ou symbolique, au sens fort du terme, ou au compte-gouttes au fil du temps. Et question subsidiaire pour certains d'entre nous. Nous arrive-t-il d'avoir besoin d'aide, d'aide réelle et substantielle, qui nous place entre les mains de l'autre? L'acceptons-nous alors? Un commentateur de la parole disait: je me demande si ce ne sont pas les blessés qui s'occupent le mieux des blessés. Comme s'il fallait se savoir et se sentir blessé pour pouvoir prendre en charge, se charger vraiment d'autres blessés. Une parole des évangiles dit: portez les fardeaux les uns des autres. Mettons-nous un instant dans la peau du blessé, le juif à demi mort. Il entend, il voit passer le prêtre, puis le lévite. Il l'entend ou il n'entend pas. Ça dépend de son état. Toujours est-il que tôt ou tard, sur place, en route ou à l'auberge, il découvre que son sauveur est un samaritain. À votre avis, comment réagit-il? Peut-être est bien étonné, oui, j'entends, étonné. Effectivement, parce qu'on sait à l'époque le mépris et la haine que se vouaient mutuellement les Samaritains et les Juifs. Il y a un chapitre auparavant, dans l'évangile de Luc. Luc, l'évangéliste, est le seul parmi les quatre évangélistes à raconter qu'un village de Samaritains n'a pas voulu accueillir Jésus. Jésus et ses disciples. Porte close. Ce à quoi Jacques et Jean, pleins de bonnes intentions, réclament, ni plus ni moins, de faire tomber les foudres du ciel sur eux. Échantillon de l'ambiance. Et voilà que Luc, seul parmi les quatre évangélistes, insère la parabole du Samaritain qui a compassion dans son évangile. La compassion. Vous sentez la grosse bombe, quoi. À la question de Jésus, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Le spécialiste de la loi répond: c'est celui qui a montré la compassion envers lui. Comme si le mot samaritain lui brûlait les lèvres. Jésus choisit délibérément de mettre en scène un samaritain comme modèle. Un homme appartenant à un peuple déviant et quasi hérétique, étranger, ennemi. Un homme répugnant pour les juifs, pour un spécialiste de la loi, pour le blessé à demi-mort. Donc vous imaginez, c'est donc la surprise au réveil à l'auberge. Normalement, dans la vie réelle, on peut penser qu'un samaritain, en principe, il n'hésiterait pas trop à achever un juif à demi-mort. Ça ne lui pose pas forcément un cas de conscience. C'est cet hérétique, c'est cet étranger, c'est cet homme, c'est cet ennemi, c'est cet homme répugnant qui s'occupe du juif mal en point. Et Jésus termine le dialogue en disant au spécialiste de la loi: va, et toi aussi, fais la même chose. Fais la même chose que ces samaritains hérétiques, étrangers, répugnants, ennemis. C'est, je pense, la pointe de la parabole. C'est qui est mon prochain, demande le spécialiste de la loi, et jusqu'où aimer le prochain? Qui est-il? Un juif? D'autres? Et Jésus répond en substance: un hérétique, un étranger, un ennemi. Un homme répugnant vient en aide à un juif. Il ne réfléchit pas pour savoir si ce juif est un quart mort, un demi-mort, si ce sont prochains ou pas. Il est devenu, lui, le prochain de celui qui était blessé. Donc, dit Jésus, résumé, suit ce modèle, devient le prochain de quiconque, sans limite, même des hérétiques, même des étrangers, même des ennemis, même des personnes répugnantes. Suit l'exemple de ce samaritain. Alors aujourd'hui, aujourd'hui est un souvenir d'aujourd'hui, hein, ce vigile d'origine nord-africaine, sans doute musulman, tant qu'il y a de grandes chances, disons, il pousse ma voiture sur un supermarché de banlieue. Pour moi, c'est comme si c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, qui Jésus prendrait-il comme modèle pour nous provoquer à l'amour du prochain sans limite? Parmi ceux que nous considérons comme hérétiques, étrangers, ennemi répugnant. Alors évidemment, on ne le dira pas comme ça, parce qu'on est bien éduqués. Mais, alors j'ose une liste de samaritains potentiels aujourd'hui pour nous. Alors, est-ce que, pour certains d'entre nous, si on est catholique, c'est protestant, Est-ce que si on est protestant, c'est catholique? Est-ce que c'est un athée? Est-ce que c'est un laïcard, hein, celui qui ne veut pas entendre parler d'autre chose que la laïcité dure et pure? Est-ce que c'est un étranger? Est-ce que c'est un musulman? Je sais, c'est un peu provoque, hein, mais comme Jésus l'était pour les juifs, en faisant d'un samaritain le modèle du prochain qui aime son ennemi. Alors, si on veut un peu ressentir ce qu'il pourrait ressentir, je vous propose l'exercice suivant. Vous prenez un quartier chic de Lyon, on va prendre Confluence, vous roulez en voiture, et vous allez vers un quartier pas chic du tout. On va prendre Minguette, ou certains quartiers de Vaux-en-Velin un peu chaud, genre Carré-la-Soie, vous voyez, par là-bas. Et vous roulez en voiture, puis vous remplacez le prêtre, le lévite, tout ça, par des personnages équivalents, et vous verrez que c'est aussi provocant pour vous que si elle était du temps de Jésus, essayez de faire un peu l'exercice mentalement. J'ai du mal, hein. Me mettre dans la peau de celui qui est en voiture, qui part de quartier chic, qui va dans les quartiers un peu chauds. Et puis, voilà, qui se risque, quoi. Et ça a un effet. Parce que ça a l'effet de faire sauter les limites de l'amour du prochain. Ça questionne nos stéréotypes. Aider dans l'église seulement. Aider les chrétiens seulement. Aider seulement ceux qui veulent s'en sortir. Aider d'abord les Français. Aider d'abord ceux qui ont une culture compatible. Alors évidemment, dans les associations actives dans le domaine du travail social, l'aide est apportée à quiconque, sans limite liée à l'appartenance ou aux raisons pour lesquelles la personne se trouve dans la précarité ou la pauvreté. C'est bien la logique du bon samaritain, du bon samaritain. Et puis le travail social, ça ressemble un peu au travail de l'aubergiste de la parabole. Le bon samaritain, il fait beaucoup, il est généreux, il paye de sa personne, il paye de son porte-monnaie, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? Non seulement il donne, mais il passe le relais. À un moment donné, il ne peut pas prendre en charge tout le problème. Je me suis avoir dit ça dans telle occasion, dans telle ou telle situation, ou telle personne, mais on ne peut pas prendre en charge tout seul tout le problème. L'aubergiste fait son travail, payé, contractuel. Le samaritain a compassion, l'aubergiste fait son job, les deux sont bienvenus et nécessaires. Et j'y vois la valeur du travail social, du travail séculier, salarié, subventionné. J'y vois aussi un soulagement. Je n'ai pas à tout prendre sur moi, quoi. Je peux aussi passer le relais. Aimer le prochain, quel qu'il soit vraiment, c'est la pointe du message de Jésus dans cette parabole. Aimer par une compassion en acte, pas en parole ici. Aimer par un engagement pour le bien de l'autre, sans évangélisation ici, qui a toute sa place, mais qui s'exprime autrement. Aimer Dieu et son prochain, quel qu'il soit vraiment, voilà comment vivre en héritier de la vie éternelle. Et rappelons-nous, nous sommes les blessés dont Dieu en Christ s'est chargé, le Christ qui nous a aimés et qui a aimé toute l'humanité, qui est venu en territoire étranger par sa naissance, en naissant, qui nous a pris sur lui à Golgotha, qui nous a pris. Laissons-nous soigner et relever par le Seigneur Samaritain. Et rappelons-nous ce qu'il disait Augustin, un père de l'Église. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Je vous propose un temps de silence, et puis au bout de quelques instants, tu pourras nous lire.
Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Que les paroles du Christ m'accompagnent, nous accompagnent cette semaine. Et je vous salue tous. Prenez aussi le temps de vous saluer. On peut remettre peut-être, on va arrêter le diaporama là, on ne chantera pas le dernier chant. Juste les consignes d'hygiène, sécurité. Voilà, donc prenez le temps, vous les connaissez bien maintenant. Bon dimanche.